explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
C'est l'histoire d'une étudiante engagée dans des études de droit qui, juste après avoir obtenu son master à Sciences Po, décide de bifurquer, de prendre la tangente. Non, elle ne présentera pas les concours pour devenir avocate. Il y a plus urgent. À 23 ans, Isabelle Del Real veut voir du pays, voyager loin, vivre la grande aventure. C'est décidé, elle va quitter sa Bretagne natale à vélo pour rejoindre l'Iran. C'était avant que les bombes ne pleuvent, c'était avant que la population ne se révolte suite à la mort de Mahsa Amini. Quand Isabelle Del Real prend la route, nous sommes en février 2021. Les frontières s'ouvrent et se ferment au gré des poussées de fièvre du Covid. Notre ex-future avocate s'élance dans un périple de près de 15 000 km à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Dans une jolie bande dessinée intitulée « Plou errant » aux éditions Delcourt, Isabelle Del Real raconte ce voyage de 10 mois sur la route de la soie, par les cols caucasiens, puis par les Balkans jusqu'à Téhéran. Avec humour et sensibilité, elle partage les rencontres, les découvertes, les frayeurs, les moments de plénitude, mais aussi les questionnements qui la traversent. Pourquoi partir quand elle ne sait plus où elle va ? Qu'est-ce qui la pousse à aller chaque jour chasser la ligne d'horizon, la prochaine forêt, le prochain col, la prochaine mer ? L'autrice de bande dessinée a-t-elle trouvé des débuts de réponse sur son chemin ? Nous allons le savoir. Cet après-midi, Isabelle Del Real passe par notre bivouac et nous emmène à grands coups de pédale jusqu'au bout de son rêve. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre sociologue de l'alimentation, Éric Birloez. Aujourd'hui, nous partons avec lui sur les routes de l'amande. Voilà pour le programme du jour. Louise Cognard a préparé cette émission. David Leprince la réalise. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je vis à Téhéran. Cette ville est très proche de la montagne, proche de la chaîne de l'Alborz et du mont Damavand, qui est le plus haut sommet du pays. Quand on est sur le rocher, quand on touche la roche, l'énergie qu'on ressent est incroyable. Et la concentration pendant toute l'ascension est telle qu'elle vide la tête complètement. Et quand on rentre à la maison, on est plein d'énergie au lieu d'être épuisé.
Bonjour Isabelle Del Real.
Bonjour.
Nous venons d'entendre la voix de Shiva Anourbar, habitante de Téhéran, adepte de l'escalade. Alors je précise que l'interview a été réalisée pour un documentaire d'Arte qui date de 2021, avant donc les soulèvements réprimés dans le sang suite à la mort de Mahsa Amini, étudiante qui avait été arrêtée par la police des mœurs pour un foulard jugé mal positionné et qui a été retrouvée morte 3 jours après son arrestation. Je ne sais pas si aujourd'hui les femmes peuvent toujours pratiquer l'escalade non loin de Téhéran. Mais Shiva Anourbar parlait de l'énergie que lui procure la montagne. C'est quelque chose qui vous parle, vous, Isabelle Del Real, aller en montagne et en redescendre plus forte?
Ah oui, absolument. Je pense que quand on est seul dans les montagnes, toutes nos sensations sont vraiment décuplées. Et même si ça peut sembler fatigant, une fois qu'on arrive au sommet, on est empli d'énergie et on oublie toute la souffrance de la montée.
Oui, c'est ça. Hein. C'est toujours curieux sur les adeptes du vélo, ce plaisir qu'ils ont à gravir l'école. Et plus particulièrement, ces montagnes d'Iran, vous en aviez entendu parler par votre père.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vous avait dit sur ces montagnes ?
Il m'avait dit très peu de choses. Il faut pas trop de mots pour rendre les gens curieux, je pense.
Ouais.
Parfois, plus il y a de mystère, plus on a envie d'aller voir. Il m'avait juste dit que c'était les plus belles. Et comme je sais qu'il en a vu beaucoup et qu'on apprécie la montagne de la même façon, j'avais très envie d'aller les voir.
Ouais. Ce sont ces récits, ou en tout cas ce message en vous disant ce sont les plus belles montagnes du monde, qui vous a donné envie d'entreprendre ce grand voyage jusqu'à Téhéran ? Ça suffit, cette curiosité-là, pour se lancer dans une telle aventure ?
Je pense en partie. Il y a ça, il y a aussi des longues conversations avec d'autres amis qui m'ont parlé de l'Iran, de Téhéran. Et puis il y a une curiosité pour les routes de la soie, et puis pour la Perse, l'envie d'aller voir loin. Le sentiment d'être loin, pour moi, il commence à partir de l'Iran.
Ouais. Alors la décision de partir, vous la prenez alors que vous venez d'obtenir votre master de droit à Sciences Po Paris. Vous aviez l'intention au départ de poursuivre pour devenir avocate. Pourquoi cette bifurcation ?
Je pense qu'au moment où j'ai écrit et envoyé mon chèque à l'école du barreau, je me suis rendu compte que c'était un mauvais investissement. et effectivement, il y a un sentiment de d'urgence, mais ça c'est peut-être propre à la grande jeunesse, de se dire il faut que ce soit absolument maintenant et plus après. Ouais. Bon, j'en suis un peu revenue entre-temps, mais effectivement je voulais partir loin et vite.
Ouais, c'est ça, il y a un sentiment vraiment d'urgence.
Absolument.
Qui se dégage de votre récit, avec une peur de... Alors, je ne sais pas exactement, mais une peur de quoi ? De vous ennuyer dans la vie ? Une peur de ne pas vivre assez intensément ? De passer à côté de votre vie ? Qu'est-ce qui vous fait si peur ?
En fait, je pense le voyage comme... Enfin, je pense que tout le monde se pose la question de comment il va occuper son temps.
Ouais.
et l'espace dans le monde tout au long de sa vie. Et donc moi, je me disais, c'est pas possible là d'être sur place. Pour la seule réponse que j'avais dans l'immédiat, c'était le mouvement, d'être en mouvement. Et donc pour ça, il fallait partir loin. Mmh. Et comme j'habite en Bretagne, je pouvais pas partir trop loin vers l'ouest.
Ouais.
Il me restait l'est. Et donc là, il y a une route toute tracée et très intéressante où on peut voir plein de ruines, on peut voir plein de choses intéressantes.
Oui, alors il y a quand même une petite étape que vous sautez là dans votre explication, parce que vous avez envisagé de prendre la mer dans un premier temps, d'aller jusque dans les les terres australes et antarctiques françaises, notamment l'archipel de Kerguelen, qui vous faisait de l'œil.
Oui, et j'en rêve toujours.
Oui.
Mais j'ai d'ailleurs écrit cette bande dessinée comme une bouteille à la mer pour que quelqu'un...
Ben peut-être que cette émission va vous ouvrir des portes, on ne sait pas.
Non, effectivement, c'est très difficile de trouver un embarquement pour les mers australes. Mais c'était mon rêve. Mais je me suis aussi très vite rabattue. En 2021, on était déjà très contents quand on pouvait passer un peu de temps dehors. Donc c'est déjà très bien de partir.
Mais pour les Kerguelen, vous avez quand même écrit une lettre de motivation en disant à quel point vous étiez formidable pour baguer les oiseaux, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs ornithologiques qui sont faits sur cet archipel. Vous y avez mis tout votre cœur ?
J'y ai mis tout mon cœur, mais comme j'ai pas de compétences, la seule chose que je pouvais mettre en valeur, c'était que j'avais des poules dans mon jardin. Donc
ça n'a pas suffi.
Non, ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas convaincu, mais ça
peut-être
n'est que partie remise. Alors vous partez avec ce désir d'aventure. Première traversée d'abord des Pyrénées à pied, d'ouest en est. Et en revenant de ce premier périple, qui est déjà quand même important, vous avez cette conviction, oui, c'est à vélo que j'irai jusqu'en Iran depuis ma Bretagne natale. Et quand vous annoncez cette nouvelle à vos parents et à votre mère notamment, mais elle vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'as jamais fait de vélo sérieusement ? Tu détestes ça ?
Oui. C'est vrai. Bon, après, je lui ai un peu dit, je vais aller à Téhéran pour la choquer, mais aussi pour m'encourager, parce qu'en le disant, ça rend les choses plus réelles. Mais oui, c'est vrai que j'ai traversé les Pyrénées à pied, c'était fabuleux, mais c'était un peu lent.
Ouais.
En fait, le vélo, c'est un rythme qui est assez chouette, parce que quand on a des grandes étendues désertiques, finalement, on n'y passe que 2-3 jours au lieu de 15, mais on est assez lent pour quand même ressentir toutes les courbes, tous les virages de la route, toutes les aspérités de la route. C'était la bonne vitesse pour voyager.
Ouais, c'est le bon moyen de transport pour profiter du paysage sans trop s'attarder.
Exactement, j'avais pas d'affinité pour le vélo, mais ça s'est révélé formidable.
Oui, et puis finalement, les affinités sont venues en roulant sur la route. Vous le construisez vous-même, votre vélo, pour quelle raison ?
Je le construis avec des amis en 2021, en 2020-2021.
Ouais.
Il n'y avait plus de vélo sur le marché, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pendant le Covid, il y avait eu... plus de vélo.
Ouais, pénurie de vélo.
Pénurie,
tout le monde en voulait.
Alors j'ai dû trouver des pièces sur Internet, et on l'a construit avec un pied d'atelier dans ma chambre.
Oui, mais ce qui fait que votre vélo, en tout cas, moi je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, mais tel que vous le décrivez, il grince, il couine en roulant. Vous vous lancez quand même sur un périple qui va faire 15 000 km sans trop savoir par où vous allez passer, avec un vélo qui n'est pas de compète, quoi.
Alors il avait des petits problèmes, mais il était quand même très robuste, très solide et facilement réparable.
Ouais.
Et je préfère ça qu'un vélo qui a l'air tout bien dès le début. Et voilà, et puis le construire avec mes amis qui m'ont vraiment aidé, ça m'a permis de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait.
Ouais, c'est ça. Donc finalement, vous vous sentez mieux armé. Finalement, aucune appréhension avant de partir ?
Si, bien sûr, mais il fallait les taire, parce qu'il ne faut pas inquiéter les gens autour de nous. Mais je pense que ce qui était marquant, c'est que toutes les nuits, je me réveillais à la même heure.
Ouais.
Une espèce de sueur froide, un peu instant de panique. Et ce qui m'inquiétait, c'était de savoir où j'allais dormir, parce qu'on veut se mettre à l'abri la nuit. Et je savais pas à quoi allaient ressembler les paysages que j'allais traverser. On a beau regarder Google Street View, Google Maps, les cartes, on sait pas si tel talus ou tel bosquet va réussir à cacher notre tente, ou à quoi ça va ressembler.
Ouais.
Et donc en fait, c'était ça qui me réveillait la nuit. C'était où est-ce que je vais mettre ma tente.
En fait, la nuit, vous vous inquiétiez de vos nuits sur le parcours.
Exactement. Et puis après, je me rendormais et je me disais, bon, c'est pas grave.
Ouais, ça n'a pas suffi à vous retenir. Quand vos parents vous voient partir, ils se disent, dans 10 jours, elle est de retour. Elle ne tiendra pas 10 jours sur la route.
Oui.
Ouais.
C'était parce que c'était en plein hiver, pour une fois il neigeait même, il y avait le couvre-feu, et puis je pense que, comme je n'étais pas une fanatique de vélo, ouais. Ils se sont dit ça va lui passer.
Ouais. Ouais, on va y revenir à cette histoire de couvre-feu, parce qu'effectivement vous choisissez quand même un moment particulier pour partir, hein. Faut se remettre dans le contexte, hein. 2021, c'est le couvre-feu, on peut sortir de chez soi pour aller travailler, bon, enfin, on est quand même très contraint, et vous c'est ce moment-là que vous choisissez pour goûter à la liberté absolue. Vous avez un itinéraire défini en tête quand vous partez? Vous savez par où vous allez passer?
Mais j'ai noté quelques points importants de la route de la soie. Et après, on dit la route de la soie, mais il y en a plein. Donc, il y a plein de trajets possibles. Ça me laissait quand même un itinéraire vers l'est assez, assez large. Mais j'avais essayé de prévoir une route où je pouvais passer par le plus de déserts, le plus de montagnes possible.
Et vous passez, alors, quand vous êtes encore en France, par la Lozère et plus particulièrement par le pays du Gévaudan,
oui.
Où vécut la fameuse bête. Et forcément, sur votre route, eh bien, on vous en parle.
Cet animal extraordinaire que l'on appelle la bête du Gévaudan est un peu regardé comme un mythe, et un mythe fabuleux. Ce ne fut hélas qu'une triste et très vivante réalité. C'était un loup ou une sorte d'hybride de loup. Ceux qui la virent en firent des descriptions dont il est aisé de comprendre qu'elles étaient démesurées par la peur. Sa férocité naturelle s'augmentait d'une violente passion pour le sang et pour la chair humaine. Elle s'attaquait plus spécialement aux enfants et aux femmes, et se contentait, après les avoir abattus, les avoir égorgés, de leur sucer de sang. On dit même qu'elle revenait parfois sur leur terrain de chasse pour achever leur victime.
Un extrait de Auvergne Actualité qui date de 1965, et on en parle évidemment toujours de cette bête du Gévaudan. Et vous, sur votre parcours, des fois vous dormez chez l'habitant et on en plaisante de la bête du Gévaudan. Sauf que quand vous finissez par bivouaquer dans la montagne, bien là, vous emmenez plus tellement large.
Ben, je trouvais que c'était honnête de rendre les peurs qu'on a la nuit quand on dort tout seul dans la forêt, vraiment ouais. Tout seul dans la forêt. On a deux états d'esprit. En fait, le jour, quand il y a la lumière du soleil, on se sent invincible et protégé. Et puis la nuit, c'est aussi tout un univers à apprivoiser. Et donc, il peut arriver que la nuit, s'il y a une ambiance un peu humide, qu'on entend des craquements dans la forêt et qu'on n'est pas habitué, on laisse libre cours à des peurs qui sont irrationnelles. Mmh. Et je l'avais même noté dans mon carnet. Je me dis, c'est pas possible. Je pourrais presque recroire à des histoires d'horreur.
Ouais.
Et en fait, on se réveille le matin et on les balaie en disant, ouais. En fait, non, mais pas du tout.
Ouais.
Mais
C'est-à-dire que pendant cette nuit, vraiment, c'est une des plus terrifiantes, finalement, de votre parcours, ce que vous avez vécu en Lozère, dans le Gévaudan?
Absolument, il y en a eu peut-être deux autres au maximum,
ouais.
Et c'était toujours des nuits similaires où j'avais peur d'un animal dans la forêt. Mais celle-là, elle était particulière, parce qu'après ça, quand on se réveille le matin et qu'on se rappelle que la nuit, on a vraiment cru à une bête du Gévaudan,
oui.
Alors on décide de prendre le pas sur cette peur et de se dire non, maintenant c'est plus possible,
ouais.
Et de rationaliser en fait.
C'est étonnant, hein, cette peur des nuits qui revient, et d'ailleurs votre ouvrage est entièrement à l'encre, hein, c'est
oui.
En noir et blanc,
oui.
et vous faites dans vos récits vraiment une belle place à la nuit, et en plus le trait en noir et blanc en permanence nous plonge dans ces ambiances nocturnes merveilleusement.
Ah ben j'espère, parce que la nuit est un vrai personnage dans cette histoire.
Ouais.
Quand on est tout seul sur un vélo pendant très longtemps et qu'on passe 24 heures d'une journée dehors, surtout quand on part l'hiver, il y a énormément d'heures de nuit.
Mmh.
Et donc il y a tout cet espace de nuit à occuper.
Mmh.
Et on ne peut pas juste être dans sa tente. Alors la tente, c'est formidable, c'est une épaisseur d'une feuille de papier en ressenti château fort. Mais il faut parfois sortir, aller faire un petit feu, et il faut occuper cet espace et il faut l'apprivoiser. Et au final, je trouve que c'est extraordinaire de passer toutes ces nuit en extérieur, de voir le ciel bouger, les étoiles bouger, c'est formidable.
Et ce qui est encore plus marquant et formidable, c'est que vous vivez ces nuits en toute liberté au moment où on est tenu de rester chez soi. C'est, je le répète, le confinement ou en tout cas le couvre-feu. Donc vous avez un peu l'impression d'être clandestin à bord de
oui.
Votre propre pays à ce moment-là.
Oui, c'est un...
C'est dans les marges en tout cas.
Exactement, dans les marges ou dans les coulisses. C'est un
ouais.
Peu l'ancien délit de vagabondage
ouais.
Où on n'avait pas le droit en fait de se promener comme ça non plus d'un village à l'autre. On disait des gens qui faisaient ça qu'ils étaient sans feu et sans aveu. Ils n'avaient pas de foyer, ils n'avaient pas de confession.
Ouais.
Et ils étaient dans les marges de la société. Et quand on peut le choisir et le faire pour un temps qu'on choisit nous-mêmes,
ouais.
C'est formidable.
Ouais. Alors dans les marges et aussi à jongler ou en tout cas à louvoyer avec les frontières, parce que
oui.
Du coup vous faites un détour par l'Espagne, hein, qui n'était pas franchement sur la route pour aller à Téhéran, mais vous faites un détour par là, puis après vous rejoignez l'Italie, en fait, au moment où vous pouvez passer, vous passez. Mais ça a du bon aussi, parfois, par exemple, vous avez vu Venise, comme peu de touristes ont eu le plaisir de voir Venise en plein confinement.
Exactement, Venise complètement vide. Venise où j'ai appris qu'on pouvait faire du vélo si on était résident.
Ouais.
Et effectivement, ça c'était une chance, mais je pense aussi que c'était très appréciable de ne pas pouvoir décider du trajet, de combien de temps j'allais rester dans chaque pays, et de la prochaine destination, et de devoir attendre en fait... Voilà, que les frontières ouvrent.
Allez, le voyage ne fait que commencer. Il va durer 10 mois, 15 000 kilomètres. Vous allez nous raconter quelques moments forts de votre périple. L'autrice de bande dessinée Isabelle Delréal nous emmène à vélo jusqu'en Iran cet après-midi. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
گاری بودت دست که برگردن او میبینی دستیست که برگردن یاری بودت افسوس که سرمای زکم بیرون شد و دست عجل بسیج گرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از او کفار مسافران دنیا چون شد گردن به فلک نیز به کاری بودت هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین آن مردمک چشم نگاری بودت افسوس که سرمای زکف بیرون شد و دست اجل بسیج گرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از او کفال مسافران دنیا چون شد.
C'était Kouroche Yagmaei qui chantait Darencha sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et c'est Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Je crois que c'est dans les Monts Célestes au Sable Rouge où pour la première fois j'ai eu ce sentiment formidable. Au coucher du soleil, on était en plein bled, à mi-chemin entre Frunze et le lac qui s'écoule, et on a dormi à même le sol. Eh bien, il y a eu une tempête pendant la nuit. Je me suis senti donc à même le sol de l'Asie centrale et roulé par un grand vent de steppe asiatique où j'ai senti ce contact avec la terre immense, l'Eurasie. L'Europe est une petite presqu'île dans une Asie immense. C'est affreux d'employer des mots qu'on fait partie du cosmos. J'étais trois fois rien, j'étais un grain de sable pensant.
Un grain de sable pensant, elle est jolie, cette expression employée par cette célèbre grande voyageuse. Je ne sais pas si notre invitée Isabelle Delréal a reconnu sa voix, vous l'avez reconnue Isabelle ?
C'est Ella Maillard.
Exactement, Ella Maillard, que vous citez dans votre livre, un peu comme votre modèle. Elle vous a accompagnée sur la route, Ella Maillard ?
Bien sûr, bien sûr. En plus, je lisais La Voix Cruelle, ouais. Qui est un livre où elle raconte son voyage de Genève, il me semble, jusqu'à Kaboul. Je le lisais, j'essayais de le lire au passage où qu'elle décrivait. Quand j'étais dans le Caucase, je lisais la partie dans le Caucase. Quand j'étais en Turquie, je lisais la partie en Turquie. Et elle écrit, en fait, ce qu'on vient d'entendre, elle écrit très bien ce sentiment de dormir par terre, d'être connectée au sol. Et ça, c'est extraordinaire.
Ouais. Vous l'avez ressenti, vous aussi, ce sentiment de... Elle le dit, d'être tout petit sur cette terre immense et un peu de faire corps avec...
Absolument. Absolument, et je pense qu'elle le résume très bien, et on en revient aussi aux nuits, mais dormir par terre, et donc se lever à échelle du sol tous les matins, c'est quelque chose de très fort.
Mmh. Tout au long de votre parcours, vous aviez toujours le sentiment d'être là où vous deviez être?
Oui, parce que j'étais en mouvement, donc ouais. c'était une place confortable. Y a toujours cette adrénaline de ce qui va se passer dans la journée, de ce qui va se passer le lendemain, donc on se sent bien.
Ouais. Alors vous dites on se sent bien, moi j'ai quand même lu régulièrement au fil de la BD des « qu'est-ce que je fous là ?». C'est quand même une question qui revient, en tout cas au début, oui. Presque tous les jours, ce « qu'est-ce que je fous là ?».
Mais il faut être aussi un peu honnête, et même si on l'oublie, on se demande quand même, on a constamment des doutes. Et je pense que ce qui est formidable quand on fait ce type de voyage, que ce soit à vélo ou à pied, mais qui demande des efforts physiques importants, ouais. C'est qu'on a l'impression de vivre parfois 3 journées en une, avec des pics émotionnels énormes. Donc des moments vraiment jubilatoires, et des moments d'intense dépression, juste parce qu'on n'a pas trouvé le paquet de gâteaux qu'on voulait. Mmh. Et ça tient vraiment à ça, et c'est fort. Enfin, c'est vraiment bien de revenir à des bases. Ouais. Donc il faut le dire quand on a des doutes. Aussi.
Bien sûr, et des questionnements aussi. Hein. Pourquoi on part et pas nos amis? C'est une question que vous vous posez.
Oui, absolument.
Pourquoi vous vous la posez?
Je me la pose parce que, comme plein de gens, peur de ne pas faire comme tout le monde, peur de ne pas bien s'inscrire dans la société, de ne pas participer à quelque chose de plus grand et d'être un peu isolé sur les bords de route, mais quand même la conviction profonde de savoir que je faisais la bonne chose. Mais ça vient d'un instinct. Je n'aurais pas eu les arguments, et je n'ai peut-être toujours pas les arguments pour aller en ce sens.
Pour savoir vraiment pourquoi on part, pourquoi on voyage... C'est difficile d'expliquer ce besoin de prendre la route et d'être en mouvement.
Effectivement, c'est très difficile d'expliquer. En tout cas, je me suis rendu compte que ce que j'arrivais à faire le mieux, c'était de le rendre avec des dessins, d'essayer de rendre cette sensation de flottement sur la route. Mais moi, je rêvais d'écrire des livres et j'ai commencé à écrire une bande dessinée parce que je n'arrivais pas avec les mots à dire ce que je voulais dire. Je me suis rendu compte qu'avec le dessin, peut-être que je pouvais laisser les gens imaginer, en fait.
Et le dessin est venu après, hein, sur le moment, quand vous êtes au bord de la route. Pourtant, vous aviez pris des crayons, de quoi dessiner, mais ça ne vient pas vraiment, finalement.
Mais non, dans un premier temps, c'est l'hiver, donc on ne peut pas trop dessiner sans risquer de se geler les doigts. Et puis ensuite, au moment du déconfinement, où les terrasses réouvrent, alors là, ça devient l'excuse parfaite pour faire une pause, sortir le carnet de dessin, et puis essayer de dessiner un peu, mais très peu de dessins, parce que ça prend du temps et que je suis une maniaque. Ouais. J'en ai fait quelques-uns, et c'est seulement au retour que je me suis mis à dessiner.
Quand vous étiez dans des périodes de doute, hein, vous l'avez dit, le refuge, la façon de se raccrocher, c'est le mouvement, c'est de reprendre la route, d'avaler les kilomètres. À quoi on pense quand on est sur ces dizaines et dizaines de kilomètres quotidiens?
Alors on pense à énormément de choses. Très concrètement, il y a des moments où on regarde juste la route défiler. C'est vrai, on voit cette bande de bitume qui défile et on se dit mais combien d'heures je l'ai regardée cette bande de bitume, et puis combien d'heures, et puis combien d'heures, et puis finalement l'esprit est embarqué par ce mouvement et il suit un peu le pédalier du vélo, et là on peut écouter des podcasts ou alors tout simplement faire de l'ordre dans sa tête, passer un peu toutes les idées, tous nos souvenirs au tamis et essayer de passer du désordre à l'ordre du moins le plus possible.
Il y a des monologues que vous retranscrivez, c'est quand même assez décousu, avec des fois des pensées un peu inavouables en vous disant de toute façon personne ne sait où je suis.
Exactement.
Personne ne sait ce qui se passe dans ma tête, alors au moins je peux penser ça, on ne l'enlèvera pas. Vous dites aussi des podcasts, alors pour être raisonnable, vous avez les enceintes hein, pour pouvoir entendre la route, mais surtout, vous écoutez, j'ai l'impression, parce que bon, vous ne saviez pas qu'on vous inviterait sur France Inter, ni sur Radio France en général, mais vous écoutez exclusivement les podcasts de Radio France, si j'ai bien compris en vous lisant.
En grande partie, j'écoutais ça, j'écoutais aussi des playlists aléatoires de podcasts sur mon téléphone, mais beaucoup Radio France, effectivement.
Ouais, le jeu des 1000 euros,
toujours.
Charline, le journal de presse que 17h17.
Mais bien sûr, d'ailleurs on se sent presque amis après avec les présentateurs, ils ne le savent pas, mais c'est bien des compagnons de route.
Vous avez fait, je vous en présenterai, il y en a peut-être quelques-uns qui traînent dans les couloirs, vous irez voir vos amis. La montagne aussi est votre refuge, dans les moments où, parce que vous alternez entre des moments de ville, d'effervescence, et des moments un peu de repli sur soi, vous dites même, mes amis, parce que vous auriez de quoi les contacter avec votre portable ou WhatsApp, et vous avez l'impression de plus vivre vraiment dans la même réalité, de ne pas vraiment trop quoi savoir leur raconter. Vous dites, j'ai perdu mon mojo. Vous êtes plutôt habituellement marrante avec eux. Vous savez aborder les sujets de façon rigolo. Là, vous n'avez pas spécialement envie d'être drôle. Vous repliez un peu sur vous et la montagne vous sert de refuge à ce moment-là.
Absolument. Bah déjà, j'aime bien aller en montagne parce que la question ne se pose plus. On n'a plus Internet. Très souvent, on ne capte pas. Et effectivement, c'est un refuge parce qu'il y a la solitude et qu'il fait froid.
Ouais.
Je pourrais dire tellement de choses sur la montagne.
Mais je vous écoute, je vous écoute.
Le mieux, c'est le sentiment d'avoir beaucoup marché ou beaucoup roulé et de enfin trouver le bon endroit où poser son camp. Et en fait, la journée ne s'achève et on ne se sent détendu qu'une fois qu'on a posé son bivouac. Et là, c'est vraiment le calme.
C'est ça, le bivouac, c'est l'acmé finalement de tous ces moments. Alors, il y a cette partie voyage en solitaire qui alterne avec des séquences beaucoup plus au contact des autres, parce que c'est aussi ce qui frappe, c'est que tout au long de la route, mais j'ai l'impression dans tous les pays, en tout cas c'est ce qui ressort de la bande dessinée, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « passe à la maison pour dormir, pour manger ». On a l'impression finalement que votre chemin est fait de rencontres et d'hospitalité.
Oui, les gens sont extrêmement bienveillants quand ils voient une personne sur la route. Alors peut-être parce que je suis un peu petite et que j'étais sur un vélo un peu moche, et peut-être que j'avais l'air en détresse.
Ouais.
Mais je ne pense pas que ce soit uniquement ça. Finalement, je me suis rendu compte, en me mettant à la place de ces gens-là, que si je voyais quelqu'un qui était sur une route à vélo et qui pleuvait, ben effectivement, mon réflexe, ce serait certainement de lui proposer un abri ou quelque chose de chaud. Et en fait, c'est ce que font les gens, très naturellement, quel que soit le pays. Parce qu'on me demande souvent, mais ça, seulement en Iran ou seulement en Albanie? Et non, partout, même en France.
Ouais, ouais.
Et alors là, c'est extra, c'est extra parce qu'on voit tous les intérieurs de maisons. Puis les gens ont très envie de partager, ouais, particulièrement après le Covid.
Ouais.
Après avoir manqué de nouvelles têtes pendant un an, les gens très envie de raconter des histoires et de voir des nouvelles têtes.
Ça, vous dites, on voit l'intérieur des maisons, et vous avez un peu l'impression d'être le bibelot qui passe de maison en maison, on vous pose.
Mais oui, parce que les gens me prennent un peu sous leur aile, me font totalement confiance et me parlent. Et finalement, comme j'aime bien les écouter, j'ai pas l'occasion d'en placer trop une, et puis ça me va très bien.
Ouais. Alors, il y a quand même des moments où vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe. On va prendre le temps de raconter cette anecdote où vous êtes en bas d'une montagne au Monténégro, je crois,
oui.
Et un vieux monsieur vous parle d'un monastère dans la montagne.
Oui, mais on finit par avoir un biais. On pense que partout où on va aller, on va nous accueillir comme le Messie.
Ouais.
Et en fait, il me dit, il y a vraiment ce super monastère où tout le monde peut dormir. Et alors là, je me dis, sauvé, ça m'enlève la charge mentale de m'inquiéter de la nuit, de qui va venir, des animaux, des bêtes sauvages. Je vais pouvoir dormir là-bas en toute tranquillité. Et en fait, c'est un immense parvis à flanc de falaise, donc à 900 mètres de haut à peu près, où tout le monde dort sur des espèces de vieilles couvertures un peu rêches.
Et c'est-à-dire, quand vous dites tout le monde, c'est pas du tout le monastère paumé dans la montagne avec deux religieux et puis personne. En fait, c'est un lieu touristique où, en fait, quand vous débarquez, clairement, on ne vous attendait pas et vous n'êtes pas la seule à venir.
Ah non, il y a des bus de pèlerins qui sont là et c'est un lieu de culte pour plusieurs religions.
Ouais. Et c'est le monastère d'Ostrog.
Exactement.
Dont on parle,
hein. Et il est trop troglodyte, donc on ne peut même pas imaginer de petite église ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans la roche. Il y a des chauves-souris la nuit, il y a des moustiques, il y a les l'encens, les bougies. En fait, tout le monde dort là un peu pieds nus. Et il paraît que dormir à Ostrog nous guérit de tous nos maux.
Ouais. Bah, ça tombe bien parce que vous aviez une insolation, vous, ce jour-là. Vous arrivez, vous êtes dans un état épouvantable.
Exactement.
Vous dormez donc à même le sol, au milieu de plein de gens. Comment se passe cette nuit?
Eh bien, cette nuit-là, moi, je fais que des cauchemars et puis j'arrive pas bien à dormir. Mais j'ai le sentiment que mes yeux, ils sont collés et que je peux pas me réveiller. Et quand je me réveille le lendemain matin, à 5h du mat, ça fait un peu comme un lendemain de Nouvel An où on a raté une grande partie de la soirée. Ce qui m'arrive aussi parfois. Mais tout le monde est parti. Et donc, je me suis endormie avec tous ces gens autour de moi, peut-être une centaine de personnes. Et le lendemain matin, il n'y a plus personne. En fait, la nuit, ils ont célébré la messe. Puis après, quelqu'un, un hiéromoine, est venu m'informer que j'avais été insupportable, que j'avais fait que de râler et de crier et de les insulter.
C'est-à-dire qu'on a essayé de vous réveiller. Vous ne vous êtes pas réveillé, mais par contre, dans votre semi-sommeil, à moitié assommé par votre insolation, vous avez un peu insulté tout le monde.
Oui.
En tout cas, vous avez été
mais
très désagréable.
Pas méchamment non plus. Je n'ai pas insulté méchamment, mais effectivement, j'ai dit, mais laissez-moi dormir, mais taisez-vous, mais qu'est-ce que vous faites? Comme si j'étais dans un camping. Mm. Alors que finalement, ce n'était pas du tout un camping. Mais voilà, c'était l'insolation. Hein. C'était,
oui, bien
moi,
sûr.
Je suis adorable.
Oui, vous êtes adorable.
Bien
alors,
sûr.
Ça, c'est dans votre nature, ou parce qu'on a effectivement l'impression que vous êtes à l'aise partout, que vous vous adaptez un peu aux situations, aux gens qui vous reçoivent, c'est dans votre nature ou c'est le voyage qui vous l'a appris ça?
Alors là, c'est une leçon un peu que j'ai appris parce que... Alors, voilà, bon, grande question, je ne sais pas si c'est un résultat sociologique, mais toujours peur de déranger on a toujours peur de déranger les autres.
Mmh.
Et donc, quand les gens me proposaient de venir chez eux, moi j'avais trop peur de les déranger, je me disais ils prennent sur eux et tout. Et en fait, apprendre à dire oui avec plaisir, oui je viens dîner chez vous, ok d'accord je reste dormir, en fait c'était devenu un peu une philosophie de ne jamais dire non à ce qu'on nous proposait.
Ouais.
Tout
et
était pour apprendre.
Comment on échange tout au long de votre route? Alors vous avez l'air de maîtriser pas mal de langues hein, quand même, d'être doué pour ça. Et puis comme vous aviez déjà un peu voyagé, vous en aviez apprises quelques-unes. Mais là, vous ne connaissiez pas toutes les langues des pays que vous traversiez ?
Non, effectivement, on a Google Traduction, ou en tout cas le traducteur en ligne qu'on peut trouver, et puis les mimes. Et en fait, une chose qui était très chouette, c'est que la plupart des gens que je croisais étaient déjà morts de rire en me voyant. C'était la dégaine.
Ah oui. Et parce que vous étiez, qu'est-ce qu'elle avait votre dégaine de marrant ?
J'avais un peu des sacs qui débordaient de partout, je ressemblais pas à grand-chose. Puis tout de suite, les gens, ils voyaient bien que c'était marrant, quoi, de... Ils me prenaient pas au sérieux, mais ils étaient pas méchants du tout. C'était un bon point d'accroche.
Ouais. Alors pour vous disiez un Google Trad. Alors pour discuter, par exemple, en Albanie, ça pouvait peut-être donner ça.
Cette maison sublime et humble est tout à fait à nous.
Ju duhet tash joni bukurine e maleve tash qiperise vendi i dy shqiponjave nuk njeh kufi tani hani sepse proteinat janë të shijshme per biciklete.
Il faut que tu profites des montagnes beauté de l'Albanie, pays des deux aigles, ne connaît pas de limite désormais, mange car les protéines sont délicieuses pour le vélo.
Ju jeni shumë e lezetshme dhe hiperaktive.
Tu es si mignon et hyperactif.
Ça pouvait ressembler à ça. Alors c'est David Leprince, notre réalisateur, qui s'est amusé à prendre les phrases de votre bande dessinée. Les dialogues, par exemple, en Albanie, ça
ressemblait exactement à ça. Quand on m'a dit que j'étais si mignon et hyperactive, j'étais cuite.
Mais vous ne saviez pas exactement ce qu'ils ont dit, parce qu'avec les méandres de la traduction électronique, on ne sait pas exactement.
Non, mais on comprend un peu l'intention. J'ai d'autres amis qui avaient une super capture d'écran, pareil, de Google Traduction, et c'était « Ne va surtout pas chez les voisins, gros alcoolique, attention ». Et vraiment, on comprend le message,
oui, ah ben
même si on n'est pas sûr de ce qui va se passer.
Allez, nous avons avancé, mais Téhéran est encore loin. Nous allons d'abord passer par la Turquie, dans un instant, prochaine étape de ce temps d'un bivouac, Istanbul. Et je précise que ce voyage à vélo jusqu'en Iran a été réalisé il y a 5 ans. Aujourd'hui, compte tenu de la situation, la France demande à ses ressortissants de ne pas se rendre dans ce pays.
Black snap to track of fate is in the ground. She crossed the ridge under the breach, the valley bright toward the night that only visions reach. Mournful moon with us over rain.
c'était Pierce Faccini et Balaké Sissoko qui chantaient Mournful Moon sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Tout droit au nord, c'est la Russie. Là à gauche, c'est l'Europe. Et ici à ma droite, c'est l'Asie. Derrière nous, c'est l'Afrique.
Istanbul, c'est le centre du monde, donc.
Voilà, tu as compris.
Istanbul a toujours été une ville commerciale ?
Oui, tout autour de nous, ces bâtiments, ce sont des hannes, construits par les rois, les reines, les pachas et les vizirs. C'était un investissement pour eux.
Mais c'est quoi un han ?
Un han, c'est comme un marché qui hébergeait des commerçants ou des artisans. Des confréries, les cordonniers, les tailleurs, etc. Chacun avait le sien.
La mosquée Rustem Pacha est un parfait exemple de l'art ottoman.
Ce qui la rend remarquable, ce sont ses carreaux de faïence. C'est vraiment l'apogée de la céramique ottomane. Regarde comme elle brille, la vivacité des couleurs.
Nous voilà donc arrivés en Turquie, plus exactement à Istanbul. Voilà qui doit vous rappeler quelques souvenirs, Isabelle Del Real. Istanbul était une étape de votre long périple à vélo entre la Bretagne et l'Iran. Alors vous racontez votre périple avec un dessin, je l'ai dit, en noir et blanc dans votre bande dessinée Plou Errant, paru chez Delcourt et Ancrage. Aucun regret, justement, devant ces couleurs sublimes des mosaïques, des mosquées d'Istanbul, de devoir représenter ça, même si les dessins sont très beaux. Hein. Là encore, ils sont très beaux, de ne pas pouvoir y mettre la couleur.
Alors, ça laissera de la place à l'imagination des lecteurs. Mais si, j'ai fait quelques aquarelles sur la route. Et d'ailleurs, une des choses que j'ai préféré peindre, c'était Sainte-Sophie, Hagia Sophia, parce qu'il y a une gamme de roses qui va du rouille ocre foncé, ouais, jusqu'au rose pâle, et le contraste avec le zinc, il me semble que c'est du zinc sur les, ouais, sur tout en haut des toits, magnifique. Ouais, j'ai adoré essayer de représenter ces couleurs.
Oui, c'est ça. Et alors, vous représentez aussi d'autres lieux qui ont l'air absolument sublimes en Turquie. Il y a ces endroits où les maisons ressemblent à de gigantesques termitières, troglodytes.
Ah, oui.
On est dans la Cappadoce. Racontez ce lieu qui, en plus du décor, qui est absolument incroyable, en plus que vous y vivez, on a l'impression que vous êtes dans une sorte de monde un peu parallèle quand vous êtes dans ce village.
On est arrivé, on était attendu.
Ouais.
Figurez-vous qu'une amie de la médiathèque de Plouer avait noté sur un post-it le numéro de téléphone d'un monsieur qui habitait là-bas.
Plouer-sur-Rance, c'est votre village d'enfance.
Qui est notre village d'enfance, effectivement. Et donc j'avais ce post-it, et deux jours avant, j'appelle, et on me dit, ah ben oui, pas de problème, retrouve-nous au bar, le Mouton Rouge. Et donc on arrive là-bas, et on est attendu, et effectivement, on a la chance de dormir dans un des plus grands, c'est presque un palais troglodyte,
ouais,
et de voir tous les matins le spectacle des montgolfières qui survolent la vallée.
Oui, parce qu'en plus, dans cette vallée, il y a des montgolfières, c'est vraiment magique. Cet endroit a l'air absolument sublime, avec des sortes de raccourcis ou de passages secrets dans la montagne. C'est-à-dire qu'on rentre dans des maisons, on est dans une communauté, dans un village, et on traverse la vallée, on réapparaît un peu plus loin.
Effectivement, il y a un peu de ça. Il y a les passages secrets, il y a les passages qui se sont écroulés, et puis c'est une vallée, il me semble, qui n'a pas encore été totalement explorée. Donc on ne sait pas dans quel type d'église on va tomber.
Ouais.
Certaines, elles vont avoir des fresques magnifiques, d'autres, elles sont déjà effacées. Et donc c'est un peu une chasse au trésor.
Ouais.
Et ouais, déambuler dans ces méandres, c'est une chance.
Ouais. Vous avez fait des études pour devenir avocate. Pourquoi vous n'avez pas choisi l'archéologie ? Parce qu'on sent que l'histoire des lieux que vous traversez, vous y êtes très sensible. Ça vous passionne, en fait. Vous imaginez Marco Polo partant quand vous êtes à Venise, évidemment, vous pensez à Marco Polo ou les grands guerriers qui sont passés par ces montagnes.
Je pense que c'était un réflexe d'assurer mes arrières. Et une fois que ça a été fait, bah là, il n'y a plus rien qui tenait. Hein.
Ouais.
Vraiment, tout est parti à volo. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller justement explorer ces endroits-là. Et peut-être que si j'ai un peu de chance, je pourrais retourner avec des amis archéologues et on pourra, ouais, aller dessiner et écrire.
Ouais. Quand vous dites une chance, c'était de partir vers... d'être avocate, c'est ça ? Quand vous dites que ça aurait pu être une chance et finalement... pour,
oui,
assurer vos arrières,
oui, bien
et
sûr.
Finalement...
Non, mais je voulais assurer mes arrières, être sûr, ouais, que quoi qu'il arrive, je pourrais trouver un métier stable. Mais
ouais. Archéologue, ça peut-être être stable aussi. Ça aurait
effectivement
pu être...
Mais vous savez, comme on nous dit souvent, vous ne pourrez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, il n'y a, ouais, pas de débouché. Alors maintenant... Je peux essayer toujours.
Ouais, c'est ça. La Turquie, c'est un moment un peu particulier. On est un peu à mi-chemin. En tout cas, vous avez aussi choisi comme un peu pivot dans votre bande dessinée. On a l'impression que c'est un moment où vous vous demandez moins pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ce... Vous avez déjà une partie des réponses à vos questions.
Mais effectivement, quand on arrive à Istanbul, on n'arrive pas juste à Istanbul d'un coup. Avant, déjà, les paysages ont commencé à changer. En Grèce, on commence à voir apparaître les mosquées. Ouais. Et puis, c'est vraiment une zone de confluence. Alors, on passe une sorte presque un espèce de passage imaginaire. Et à partir de là, à partir d'Istanbul, pour moi, j'avais eu déjà assez de chance et le reste, c'était vraiment que du bonus. Mmh. Alors, je décidais que c'était bon et que maintenant, il fallait juste apprécier et j'étais assez sûre de moi. Ça faisait 5 mois que j'étais dehors, toute seule.
Ouais. Voilà. Alors, toute seule, pas tout le temps toute
pas
seule.
Tout le temps toute
parce
seule.
Que, alors, il y a, on l'a dit, les rencontres avec les habitants, mais qui sont souvent brèves, assez fugaces. Et puis, il y a des rencontres qui s'inscrivent un peu plus dans la durée avec d'autres voyageurs comme vous. Et là, on sent que il y a une immédiateté de la rencontre, c'est-à-dire que instantanément une complicité s'installe, une envie de faire un bout de route ensemble. Ça peut être quelques jours, ça peut être aussi des semaines. Vous avez noué des amitiés incroyables sur cette route.
Absolument. J'ai essayé même de formuler ce sentiment-là en disant qu'on devenait amis plusieurs fois.
Ouais.
D'abord, on devient amis immédiatement parce que tout de suite, on peut partager quelque chose à manger, donc on est direct copains. Et puis, même se filer des bons plans, s'aider, savoir où dormir la nuit. En fait, on est tellement dans l'entraide qu'il y a déjà un lien très fort. Et puis ensuite, plus on passe de temps ensemble, plus on apprend à se connaître. Et donc, on devient amis sur d'autres plans. On se rend compte de qui sont les autres. Et oui, c'est une chance. Ça, je ne m'attendais pas à me faire des amis. Je ne savais pas. On ne sait pas qu'on va rencontrer des gens aussi géniaux.
Ouais, ouais. Avec des moments de plénitude absolue, je pense que l'un des moments où on vous sent justement le plus heureuse, c'est un moment où vous êtes en groupe, une agrégation de plusieurs personnes croisées sur la route. Vous traversez les gorges de l'Euphrate avec... racontez, parce que vous l'avez vécu. La BD, on a l'impression d'avoir été avec vous, mais c'est vous qui savez ce que vous avez vécu là.
C'est vrai qu'en étant sur un vélo et en faisant donc un peu du sport tous les jours, en voyant un nouveau paysage, j'ai été heureuse tous les jours.
Ouais.
Mais c'est encore autre chose de différent quand il y a l'émulation, le groupe, les amis et que les paysages sont magnifiques et qu'on partage tous ce sentiment-là. Et qu'on cuisine tous à plusieurs sur des petits réchauds. Ouais. Alors les gorges, l'Euphrate, c'est... Déjà, je ne savais pas que ça existait, donc il y a toujours cet effet de surprise.
Ouais.
Quand on ne sait pas exactement ce qu'on va voir. Et puis c'est une route désaffectée, où personne ne va, où tout est sec. Alors,
Et les paysages ont l'air de changer très vite. Vous passez, justement, c'est sec, puis après il y a du brouillard, et tout d'un coup de la végétation luxuriante.
Exactement, on passe du plateau anatolien aux rives de la mer Noire. Donc le plateau anatolien, il n'est pas du tout plat, inversement à ce qu'on pourrait croire. Mmh. Et il est très sec et poussiéreux. Et en un col, finalement, on arrive dans une jungle tropicale qui sont les abords de la mer Noire, on fait pousser le thé, où les gens parlent déjà russe, boivent déjà de la vodka.
Ouais. Alors on avance des péripéties et des rencontres, il y en a plein, mais arrivons déjà à Téhéran. Est-ce que l'arrivée, le but ultime de ce voyage est à la hauteur de ce qu'ont été ces 10 mois et ces 15 000 kilomètres, quand enfin vous arrivez à Téhéran?
C'est une bonne question. Je pense que si les frontières avaient été ouvertes après l'Iran, j'aurais pas vu Téhéran comme la destination finale de ce voyage, parce qu'on devient un peu addict au sentiment d'avancer sur la route, d'être en mouvement, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir des nouvelles montagnes magnifiques. Là, le Pakistan était fermé, donc je savais bien qu'au bout d'un mois de visa, je resterais certainement pas plus longtemps en Iran. Mais je pense qu'il y avait un peu une prophétie autoréalisatrice où je m'étais dit que j'aurais trouvé ce qu'il me fallait à la fin de ce voyage et que j'avais programmé Téhéran parce que je ne savais pas qu'il y avait Ispahan, que c'était la moitié du monde, parce que j'étais un peu mal préparée quand je suis partie. Et donc en arrivant à Téhéran, j'ai eu un sentiment aussi quand même d'accomplissement et de bonheur.
Alors sur votre route, vous aviez bien plus tôt croisé la route d'un jeune archéologue, justement, Sebastiano, à Venise. Vous aviez sympathisé, passé un peu de temps avec lui. Il était vénitien, donc il vous avait fait visiter sa ville comme jamais. Et il vous avait remis une lettre en vous disant « Tu l'ouvriras quand tu seras arrivé à Téhéran ». Donc une fois arrivé, eh bien vous l'ouvrez cette lettre.
Sénèque écrivit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Isabelle, j'admire ton audace et te souhaite de rejoindre les horizons dont tu rêves. Ce sera spectaculaire. Et, juste quand tu te seras dépassé, alors tu pourras renaître. » Nietzsche dit que l'aurore implique toujours un crépuscule. Nous vivons des temps difficiles, et c'est pourquoi nous devons tendre vers ce qui nous fait sentir vivants. Défaisons-nous de la facilité, affranchissons-nous des habitudes et des pensées mainstream, cherchons une vie digne de la connaissance. Ça nous fatiguera, mais nous ressentirons des émotions. Quelqu'un m'a dit qu'en Orient, où tu te diriges, entre deux personnes, il n'y a que la lumière. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le découvrirai bientôt. Tu as une maison à Venise. Amitié.
Et la lettre est signée de votre ami Sebastiano. Elle vous a touché, évidemment, cette lettre, Isabelle Del Real.
Sebastiano, c'est une personne extraordinaire. J'ai la chance de le compter comme ami. Et peut-être que lui, qui est archéologue, m'amènera sur ses chantiers pour qu'on aille ensemble dessiner et creuser. Oui, cette lettre m'a beaucoup touchée. D'autant plus qu'il l'avait écrite des mois avant que j'arrive à Téhéran.
Elle est, elle aussi, un peu autoréalisatrice. En tout cas, il avait vu juste dans ce qu'il dit, ce que ça vous a apporté, dans ce que vous êtes allé chercher.
Que Sébastien et moi, nous sommes partis en ayant la certitude qu'on faisait le bon choix, mais sans savoir exactement pourquoi. Alors, sa lettre, quand on la lit a posteriori, elle prend tout son sens, mais en l'écrivant, c'est aussi, elle est pleine d'espoir et d'espérance.
Comment on se remet d'un si long voyage, Isabelle Del Real ?
C'est une chance. C'est vraiment une grande chance de pouvoir partir. C'est un luxe de faire un voyage pareil, de revenir chez soi. Donc on s'en remet très bien, d'autant plus que moi, ce que j'ai trouvé au bout de la route, c'était un désir encore plus fort. C'était le désir de dessiner et d'écrire. Ouais. Donc j'ai eu la chance de rentrer pour un truc qui me passionnait.
Vous repartirez ? Pour bien prendre sûr. La route, bien à la sûr. Voile, je crois, dans pas plus tard que dans quelques semaines.
Oui, je repars dans 3 semaines à la voile.
Cette fois-ci, à la voile. Il faudra venir nous raconter. Merci Isabelle Del Real. Je rappelle le titre de votre superbe bande dessinée ou roman graphique, Plou errant, aux éditions Delcourt Ancrage. Et je rappelle que compte tenu de la situation en Iran, aujourd'hui la France déconseille formellement à ses ressortissants de se rendre dans ce pays. Allez, restez avec nous dans un instant. Éric Birloez nous emmène pour une dernière odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il va nous emmener sur les routes de l'amande. Population 2 qui chantait « Le thé est prêt » dans le temps d'un bivouac.
Sans moi, Goûte-moi ça. Ça sent bon. Ça sent le jardin. Ça sent les quatre saisons. Ça sent la terre.
Et pour la dernière fois de l'été, nous retrouvons Éric Birloez. Bonjour Éric.
Bonjour Daniel.
Vous êtes sociologue de l'alimentation. Comme tous les jeudis en fin d'émission, vous nous emmenez sur la piste d'un aliment qui a fait du chemin pour arriver sur nos tables. Aujourd'hui, vous nous emmenez sur les routes de l'amande.
Oui, mais si vous voulez, on va d'abord parler de l'amandier, qui est l'un des tout premiers arbres à fleurir, puisque c'est au cœur de l'hiver qu'apparaissent, avant les feuilles, ces petites fleurs délicates et blanches. Et ça, ça a suffi à en faire un symbole de virginité. Autrefois, on disait que les jeunes femmes qui, après s'être endormies au pied d'un amandier, se mettaient à rêver de leur amoureux, se réveillaient enceintes de lui.
Ah.
Oui, alors j'imagine que plus d'une a eu recours à cette explication lorsqu'elle devait se justifier.
Alors avant de parvenir jusqu'à nous, quel a été le périple de l'amandier ?
Eh oui, l'amandier, c'est un arbre voyageur. Elle est originaire des montagnes de l'Iran, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie. C'est dans cette région du monde qu'a été initiée sa domestication il y a environ 8000 ans. Une domestication qui était nécessaire, car le fruit de l'amandier sauvage, l'amande amère, est très toxique. Elle contient une substance, l'amygdaline, qui, dans l'organisme, se transforme en acide cyanhydrique. Daniel, une bonne poignée d'amande amère, elle peut vous faire passer de vie à trépas,
ah bon,
que je ne souhaite pas. Les premiers paysans du Moyen-Orient ont donc sélectionné les amandiers qui produisaient des fruits non toxiques.
Mais pourtant, dans les magasins, on vend de l'essence d'amande amère qu'on utilise comme arôme en pâtisserie notamment.
Oui, mais ce qu'on extrait des amandes amères, ce n'est pas l'acide cyanhydrique mortel, mais une autre molécule inoffensive, heureusement, le benzaldéhyde.
Me voilà rassuré. Alors, une fois domestiqué, l'amandier a quitté son berceau d'Asie centrale.
Oui, alors il est cité à plusieurs reprises dans la Bible. D'ailleurs, ce sont les Hébreux qui l'ont introduit en Égypte. Est-ce que vous saviez que le pain destiné au pharaon contenait des amandes ?
Ah.
Et l'huile d'amande, elle entrait déjà dans la composition des cosmétiques égyptiens. Et puis, quelques siècles avant l'ère chrétienne, l'amandier a pénétré dans le continent européen, apporté par les Grecs. Ce sont les Romains qui, à la faveur de leur conquête, ont commencé à le diffuser dans leur empire. Mmh. Mais en réalité, ce sont surtout les Arabes qui ont propagé la culture de l'amandier dans tout le bassin méditerranéen. Je pense qu'au rayon pâtisserie orientale, vous connaissez les cornes de gazelle, les dattes fourrées à la pâte d'amande.
Non, ils ne m'en parlaient pas.
Mais en France, il faudra attendre la toute fin du Moyen-Âge, le 15e siècle, pour que la culture de l'amandier soit pratiquée à une échelle significative dans le sud de notre pays.
Et puis, un beau jour, les amandiers ont pris le bateau pour traverser l'Atlantique.
Oui, et ils ont d'abord été introduits au Chili, c'était à la fin du 16e siècle, et au milieu du 18e, ils arrivent en Californie, où leur exploitation commerciale a commencé. Aujourd'hui, la Californie est de très très loin le premier producteur et le premier exportateur mondial d'amandes. Mmh. En 2024, 76% des amandes récoltées dans le monde, 3 sur 4, avaient été produites en Californie.
Mmh. Et si on revient un peu en arrière, comment consommait-on l'amande au Moyen-Âge ? Sans doute pas en petit grignotage à l'apéro ?
Non, on l'utilisait plutôt sous forme de lait d'amande qui servait à lier les sauces. Il entrait également dans la composition de plats qu'on appelait les blancs mangers. Ça pouvait être aussi bien des mets salés, à base de chapon ou de brochet, par exemple, que des préparations sucrées. Pour l'anecdote, ces blancs mangers étaient souvent servis au pape Jean XXII, qui était un pape d'Avignon. Mmh. Il avait décidé de ne manger que des aliments blancs, symbole de pureté. Et puis enfin, le lait d'amande permettait de remplacer le lait animal pendant les jours de carême où l'Église interdisait non seulement la viande, mais aussi, à part le poisson, tous les autres produits animaux, parmi lesquels le lait.
Et pour les chrétiens de ce temps, l'amande était aussi un symbole religieux ?
Oui, très important. L'amande, elle est constituée de trois parties, comme la Sainte Trinité, la chair, qui entoure la coque dure, qui elle-même contient la graine, qui est ce que nous mangeons. Mmh. Cette graine était aussi la métaphore du Christ, dont la nature divine était cachée sous une enveloppe terrestre. Dans la peinture ou la sculpture médiévale, la représentation du Christ, de la Vierge ou d'un saint est parfois entourée d'une auréole en forme d'amande qui porte le nom de mandorle. Mandorla en italien, ça veut dire amande.
Et aujourd'hui, l'amande est à la mode ?
Oui, au cours des 20 dernières années, la demande mondiale a explosé. Elle a été multipliée par deux. Alors ça vient du fait que l'amande est souvent présentée comme un super aliment, un trésor de santé, gorgé de vitamines, de minéraux, de fibres, etc. Entre autres bienfaits, on dit qu'elle aurait un rôle préventif contre les maladies cardiovasculaires. Et donc, pour répondre à cet engouement, la Californie a plus que doublé sa production d'amande. monde.
Mais ce succès a une face cachée, Eric.
Hélas, oui, en Californie, l'amandier est cultivé de manière très intensive, ce qui nécessite beaucoup d'eau d'irrigation, et les sécheresses étant de plus en plus fréquentes, malheureusement, eh bien, les réserves en eau de la Californie sont surexploitées. Un autre problème, c'est le déclin drastique des abeilles pollinisatrices, en raison, principalement, de l'usage massif de pesticides, ce qui oblige les propriétaires de vergers californiens à louer des abeilles pendant la saison de pollinisation, en les faisant venir par milliards et par camion de tous les coins des États-Unis. Alors la production française, elle est tout à fait minime. 97% des amandes que nous mangeons en France sont importées, 97%. Mais bon, les producteurs de Provence, d'Occitanie, de Corse, d'Ardèche font tout pour grignoter, non pas des amandes, mais des parts de marché.
Merci Éric Birloez, l'un n'empêchant pas l'autre, hein, on peut tout grignoter. Je rappelle que vous avez publié Le Pain, une croustillante histoire aux éditions Quae. Un grand merci à vous Éric de nous avoir proposé ces odyssées savoureuses tout l'été. On peut retrouver bien sûr toutes vos chroniques en podcast. Au revoir et à bientôt, j'espère.
À bientôt, au revoir Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.